Lectothèque, chapitre 13. Où il sera question de faire dériver un objet émission dont pourront se saisir quelques oreilles à droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, une, deux, auditorice, bon jour. Nous aimerions ici vous proposer une sorte de déambulation. Déambulation, oui. Déambulation, oui, mais. Déambulation, oui, mais avec, auprès, en compagnie de Jean-Hugues Larcher, qui va nous parler de son rapport à la lecture, et donc à l'écriture, et donc à la musique, et donc ne lis plus, regarde, ne regarde plus, va. Bonjour Jean-Hugues.
Bonjour Delphine.
Alors, grosso modo, nous intéressera comment tu es tombé dans petite A, la marmite littéraire, petite B, l'objet littéraire, petit C, l'obsession littéraire, petit D, ici, ta définition.
Alors, je suis tombé dans la marmite littéraire assez tardivement, finalement. Mm-hmm. On va dire assez tardivement pour certains, et peut-être tôt aussi, vers 17 ans. 17 ans, 18 ans, je croise l'œuvre de Camus, mm-hmm. Albert Camus. Et donc c'est ma première marmite littéraire.
D'accord. Voilà.
Et Camus, tout de suite, m'ouvre à des écrivains qui sont à la fois des penseurs, c'est-à-dire Nietzsche, Sade et Lautréamont. Donc déjà, on est sur des gros niveaux. Alors, est-ce que je comprends l'amplitude de leur œuvre au départ, c'est pas sûr, mais en tout cas, c'est ça qui m'interpelle dans l'œuvre de Camus, en lisant L'homme révolté et en lisant aussi Le mythe de Sisyphe, c'est-à-dire les choses sur l'absurde.
Voilà. D'accord.
Donc la marmite littéraire, elle est un peu, je tombe un peu dans l'absurde avec Camus.
D'accord.
Voilà comment ça se passe.
Alors je vais t'arrêter juste un petit peu, faire une sorte de rewind. On va revenir à un autre préalable chez Auguste.
Oui.
Où tu m'as parlé aussi de quelque chose qui était contre. La lecture, finalement, de tes parents aussi.
Voilà. Alors, c'est vrai que dans mon milieu familial, j'ai trouvé qu'il y avait un manque de curiosité, comme dans beaucoup de familles françaises. Voilà. Donc, c'est pas sûr que les familles soient souvent au parfum de ce qui est le plus intéressant dans la littérature. Donc c'était les lectures qu'on me donnait, ou que j'avais apportées en tout cas, c'était Pierre Loti avec Ramoucho, voilà. Premier de Cordée, de Frison Roche, par exemple, voilà. Donc c'était des choses que je trouvais un peu trop régionalistes, justement,
oui.
Même si c'était l'alpinisme et le Pays Basque, voilà. Et après la musique, ça ne dépassait pas la sphère d'Offenbach, maintenant, je réécoute avec plaisir, d'ailleurs. Mais à l'époque, je trouvais ça un peu ringard, quand même.
Mais comment tu t'expliques que tu as pu être critique par rapport à comment...
Je ne sais pas. Je pense qu'on... D'abord, on m'a parlé de Zarathoustra, puis on m'a dit... C'est-à-dire que mon intérêt littéraire, il a croisé Nietzsche assez rapidement.
Oui, tu l'as confronté,
J'ai confronté, et voilà. Et en fait, j'ai trouvé, je ne sais pas d'où ça venait, mais que tout ça, c'était conventionnel, c'était bourgeois, c'était de l'ordre du préjugé. Il y avait du préjugé. Et dès que les gens dégommaient un peu le préjugé, ou sortaient du cadre de la bonne tenue, de la lecture de gare, je dirais, même si j'ai rien contre la lecture de gare,
ouais.
Là, c'était pas de la lecture de gare, c'était la lecture qui était quand même réflexive, qui
ouais.
avait un sujet littéraire.
Ouais.
Qui avait un sujet littéraire qui était au-delà de ce qu'on trouvait, de ce que je trouvais à proximité. Donc il fallait que j'aille chercher ça, que j'avais pas à disposition, ni dans les collèges, à la campagne, du côté de Blaye, voilà.
D'accord. Je me rappelle aussi que tu as évoqué une sorte, ça m'a marqué parce que moi j'ai trouvé que tu avais vu encore autre chose. Tu as parlé de suite dans cet entretien-là chez Auguste au départ, tu as vu qu'on pouvait écrire aussi la pensée.
Voilà. Voilà, alors oui, c'est-à-dire que l'écriture, pour moi, ne sert pas qu'à se distraire.
Voilà. Enfin, et d'emblée, alors.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, t'as parlé très vite de rapport à l'exigence, dont j'ai pas vraiment conscience, en fait, à ce moment-là. L'exigence, c'est de rien laisser échapper, en fait. C'est par rapport au savoir. C'est-à-dire, c'est la question du savoir, en fait. C'est-à-dire, soit on se distrait. Moi, je crois que je suis à deux modes. Soit on se distrait, soit on apprend. Et moi, j'aime bien apprendre. Alors, pas à l'école, j'aimais pas apprendre à l'école.
Eh bien oui.
Je viens d'un milieu, j'ai été élevé dans un milieu scolaire, en fait, puisque ma mère était directrice d'école. Et mon père, lui, était plutôt féru d'histoire, mais un peu à la petite semaine, je dirais. Et donc, il y avait autre chose à voir que tout ça. Et alors, les copains, qui étaient parfois plus avancés, ou qui avaient fait des rencontres, je ne sais pas, me parlaient d'auteurs comme Nietzsche, comme Camus, comme d'autres gens, quoi. Enfin, voilà.
Voilà. Donc, à 17 ans, voilà, tu fais la connaissance avec ces...
Voilà. Voilà. Je me dis, je peux pas en rester là. Je peux pas en rester. Voilà. Je peux pas rester trop dans l'endroit où je vis. Donc, je vais à Bordeaux. Et quand je vais à Bordeaux, je vois des musiques. Voilà. Je découvre Blondie. Je découvre Joe Jackson. C'est la période de la New Wave. Les Doors, les Rolling Stones.
Voilà. Parce que toi, c'est indissociable, c'est quelque chose qui se tisse ensemble, hein, tout ça.
Voilà, les arts ils sont parallèles, mais enfin ils s'interpénètrent aussi.
Voilà.
Voilà, donc il faut qu'il y ait de la musique, il faut que dans la littérature il y ait de la musique, il faut que dans la musique il y ait un peu de littérature, il faut peut-être que dans le cinéma aussi, j'aime beaucoup les adaptations littéraire.
Oui.
J'aime ce que fait Orson Welles avec Shakespeare. J'aime voilà, là je voyais ces derniers jours les adaptations de Tennessee Williams par exemple, qui est un grand écrivain, voilà, donc qui est adapté par Joseph Mankiewicz dans La chatte sur le toit brûlant ou Soudain l'été dernier. Et le cinéma, c'est rendre compte de la littérature. Et ça m'étonne aussi. Je vois ça assez vite. Et donc, moi, je me sens obligé de travailler tout ensemble. Donc, d'être un peu cinéphile, de ne pas rater les voilà. Et un peu dans l'exigence d'aller vers les gens qui ont une aura, qui ont une œuvre, en fait, hein, on va dire ça comme ça.
Oui. Voilà. Ah oui. D'ailleurs, j'avais trouvé donc cette définition de... Je suis remontée là pour... Parce que tu n'es pas d'accord avec moi, mais j'avais cette sensation que tu avais un rapport à l'œuvre dont tu voulais faire mémoire aussi, parce que tu fais des documentaires aussi, on va le développer ça pendant cette émission. Donc, presque, ton rapport à l'œuvre des gens qui...
J'étais levé.
Voilà, j'avais l'impression que tu tissais aussi, mine de rien, et c'est pour ça que tu n'es pas d'accord peut-être aussi, mine de rien, quelque chose de l'ordre d'une œuvre. Mais moi j'ai un rapport, je ne vais pas trop parler de moi, mais plutôt anthropologique à la chose. Donc alors, je reviens vers toi. Donc cette définition de œuvre, français tardif, où est vrai UEVRE, donc
le
où est vrai. Moi, ça m'a.
Voilà. L'œuvre, c'est là où c'est vrai.
Voilà.
C'est la question du lieu.
Et où.
Et
voilà.
C'est la question de la vérité.
Voilà. Où, c'est quelque chose du jeu, en fait.
Alors où, c'est. Alors en 68, c'était d'où parlez-vous. Les gens disaient d'où parlez-vous. Parlez-vous de la période de la position du maître, ou parlez-vous librement, en fait.
Ouais.
Alors moi, d'où je parle, je sais pas. Moi, j'ai toujours été assez fasciné par la position du maître. Pas du tout à l'école, mais ensuite, c'est-à-dire tous ces gens libres qui avaient une œuvre, justement, que ce soit Solers, que ce soit Chebel, que ce soit Julien, que ce soit Zach Dansky, que ce soit d'autres gens, les 4 DVD que j'ai fait, en tout cas principaux, ou Gérard Guest, qui n'est toujours pas sorti, il y avait cette espèce d'autorité des gens qui faisaient l'œuvre, et donc il fallait aller questionner, peut-être pour soi-même, avancer dans sa propre pensée. Parce qu'à chaque fois, c'était la collection s'appelait Penseur du 21. Voilà. Comment on pouvait penser le 21. Donc j'avais commencé par faire un film sur Nietzsche avec une douzaine d'intellectuels français, français. C'est-à-dire, je voulais savoir comment la réception était en français. Et ensuite, c'est devenu des DVD. Voilà.
On va faire aussi une sorte d'hyperlien là dans l'émission en parlant d'un entretien qui est disponible sur le net.
Culture Walk avec mon ami Renaud Garcia.
Il y a 3 ou 4 entretiens avec toi qui sont très.
C'est il y a 10 ans, j'espère pas trop me répéter au bout de 10 ans, mais sûrement que je vais me répéter beaucoup.
Oui, c'est bon signe. Voilà. Donc là, c'est pour les débuts, 17 ans.
Voilà.
Est-ce que tu peux quand même. Donc il y avait Camus. Nietzsche. Est-ce qu'il y avait déjà l'autre amont?
L'autre amont, oui, l'autre amont. Mais à cette époque, beaucoup de gens lisaient les chants de Maldoror, un peu au premier degré, c'est très grave. C'est, tous les gens un peu dépressifs lisaient l'autre amont. les poésies, c'est plutôt dépressif. Et non, les chants, c'est plutôt les chants de Maldoror, c'est plutôt dépressif. Mais il y avait aussi les poésies que je continuais à lire depuis donc, ce temps-là, donc ça ne nous rajeunit pas. Et les poésies, c'était quelque chose d'ironique. Donc ce qui m'intéresse aussi chez l'autre amont, chez Nietzsche, chez Voltaire ou chez Solers, c'est cette ironie des choses. C'est-à-dire qu'en fait, d'accord, il y a un pathos de fond, mais la littérature nous tire vers le haut. La littérature nous éclaircit. La littérature nous amène vers des chemins dégagés du pathos du 19e siècle, comme Philippe Muret a un peu dénoncé dans son livre le 19e siècle à travers les âges que tu as sur ta bibliothèque.
Voilà, que j'ai pas fini. Mais bon, moi ce qui m'intéresse dans ce que tu dis là, par rapport à cette émission où je m'intéresse aux lecteurs, au chemin de lecture des gens, c'est que c'est quand même particulier chez toi, et c'est pas particulier chez tous les lecteurs, ouais. Et c'est pour ça qu'on peut faire après des distinguos sur ce qu'est un lecteur, c'est que de suite, en fait, t'es dans un méta, en fait, c'est-à-dire que, voilà.
C'est vrai.
Tu prends ce que dit chacun, mais tu vas la renouer dans quelque chose qui tu nous ça en toi. C'est en ça, je reviens encore sur cette idée de œuvrer. Mais œuvrer, peut-être, c'est œuvrier.
Œuvrier, oui, aussi, oui.
Voilà.
On est des ouvriers quand on fait un travail, même artistique, on est quand même des ouvriers.
Je ne sais plus à qui je le reprends, là, un psychanalyste, je ne me rappelle plus son nom, qu'il a pris à quelqu'un d'autre aussi. Hein, mais c'est peut-être plus dans cette chaise-là, de travail. Tu es toujours au travail, par rapport à ça.
Peut-être malgré moi, mais c'est vrai qu'il y a une curiosité permanente. Et on n'a pas envie, même si je suis loin d'être spécialiste de quoi que ce soit... On n'a pas envie de laisser des champs inconnus. On peut s'intéresser à l'astronomie, on peut s'intéresser à la botanique, on peut s'intéresser... Voilà, moi je m'intéresse à tout ça de façon un peu transversale, comme disait mon ami Pascal Hénard, qui nous a quittés malheureusement en fin d'année dernière. Voilà, il y a une transversalité, et il me disait, si tu as réussi un petit peu à les interviewer, alors que tu n'avais un statut ni de professeur, ni d'universitaire, ni de journaliste, si tu as pu les interviewer ces gens-là à Paris, c'est parce que tu avais une vision transversale de ça. Donc tes questions étaient transversales, et donc il me disait-il, ils sont obligés de répondre, puisque ce n'est pas des spécialistes qui viennent... Et voilà. Et donc il y a une certaine liberté que j'ai ensuite essayé en redonnant la parole dans ces documents, dans ces DVD, de laisser l'entière parole. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de laisser l'entière parole, à peu près quoi.
À peu près
l'entière parole. Et donc alors pour faire ça, il faut quand même lire les œuvres et puis ensuite. Essayer de trouver une idée qui n'a pas été relevée par d'autres. Voilà, une idée un peu rigolote. Dans le cas de Chebel, par exemple, Malek Chebel, c'était l'érotisme dans les mille et une nuits, et donc Scheherazade, donc la question des femmes. Et voilà. Et alors, il avait fait un livre, mais il ne voulait pas trop en parler quand même, parce qu'il était embêté par du côté de sa religion là-dessus. Et voilà, donc les mille et une nuits, lui disait-il, c'est trop... dans la connaissance de la sexualité féminine pour que ce soit les hommes qui écrivent ça. Donc ça m'intéresse énormément. Voilà, ça c'était très intéressant.
D'accord. Sous-entendu, l'auteur pourrait être...
C'était sûrement une femme ou des femmes. Par exemple, c'était ça. Voilà. Donc à chaque fois, il y avait des choses qui émergeaient.
Oui, c'est-à-dire que tu ne prends pas pour argent comptant ce qui t'est donné à lire.
Non, il faut toujours aller... parce que moi, je crois que la lecture, parce qu'il faut revenir à la lecture, c'est-à-dire qu'on croit toujours quand, par exemple, des gens disent « j'ai lu Proust ». Alors, ils ont lu Proust, mais enfin, ils ne savent pas trop où se trouvent les passages, hein, parce que si on lit Proust, il faudrait travailler pendant 6 mois, le stylo à la main, tout ça. Donc, à chaque fois, on relit, on revoit, on revient, et c'est une relecture permanente des choses... dans la pensée juive, il se trouve qu'on dit que les livres s'ouvrent Quand on ouvre un livre, ça s'ouvre ça s'ouvre sur un passage dont vous avez besoin dans votre vie, quoi, dont on a besoin dans sa vie. Et j'ai pu vérifier ça un petit peu comme ça, mais sans côté kabbalistique ni rien. C'est comme ça, c'est un peu ludique, comme on se tirerait le yiking pour rigoler. Donc, eh ben, y a les livres qui vous parlent, en fait. Hein. Et Edmond Jabès, il disait que la nuit, les livres, en fait, quand on dort, les livres sortent de la bibliothèque et puis font un peu comme des papillons et ils s'envolent dans votre bibliothèque. Et puis quand vous allez vous lever, ils se rangent comme ça.
Ah, oh, c'est beau. Donc, c'est, voilà.
Bon, j'adresse.
Moi, il y a des choses qui me font penser à ce que, quand cette question-là d'ouvrir les livres et de tomber à la synchronicité aussi. Hein.
C'est une synchronicité.
Tu as employé aussi le mot liberté. C'est quelque chose qui est... Alors, c'est plutôt ce qu'incarnerait le fait d'être libre. Je ne sais plus avec quel auteur...
Liberté. Je ne sais pas la liberté.
Bon, je vais mal rebondir. Je cafouille, c'est pas grave.
La liberté, la liberté, de toute façon, dans la création, ça me paraît l'essentiel. C'est-à-dire que si on ne sort pas des carcans qu'on nous a inculqués, si on ne sort pas des carcans sociaux, si on ne sort pas des carcans que l'économie, même artistique, propose, à ce moment-là, il n'y a pas de liberté. Ouais. Donc, la question de l'artiste, par exemple, à laquelle je réfléchis, c'est comment, quand il produit une œuvre, comment il ne se laisse pas récupérer ? Comment il peut continuer à développer une liberté, c'est-à-dire être l'envers absolu de Jeff Koons, qui ne produit aucune liberté à mon avis, mais simplement du plastique accroché au plafond, et qui veut absolument devenir bankable. Voilà. Donc un artiste tel que je le conçois, avec le grand exemple de Cézanne, par exemple, qui ne pense absolument pas à ce qu'il va, à ce qu'il va devenir. C'est-à-dire, il est sur le motif, et il travaille son motif, et il respire.
C'est la trame de sa vie.
Voilà, et il vit entièrement, en liberté face à son motif. Voilà,
tout ça. Voilà.
Donc la liberté, la liberté, c'est peut-être ce qui permet d'aller plus loin. C'est-à-dire d'avoir conscience, ou d'avoir conscience qu'elle n'est pas encore advenue la pleine liberté.
Oui, alors moi je rajouterais, je me permets de revenir plus loin.
Voilà. Revenir plus loin, voilà. Oui, on revient plus loin. Mais je pense que pour créer, on est toujours obligé de revenir sur ses bases. On a des bases. Ben, les bases, c'est les grands auteurs qu'on a croisés et qui sont là dans la bibliothèque. Alors voilà, alors ça peut être la pensée chinoise pour moi, ça peut être la pensée juive, ça peut être le catholicisme aussi, ou les dogons.
Ouais.
Mais voilà, et donc on fait un peu le tour. Alors,
excuse-moi, c'est pas que je veux parler de moi, mais toi aussi, tu as une vision un peu anthropologique de tout ça. Alors,
Universel, comme
mais
ça.
Mais c'est ça.
C'est l'universalité qui intéresse. Alors, on l'a dans les cultures.
Mais tu peux critiquer aussi cette idée d'une universalité.
Alors, après, il y a mon ami Pascal Hénard, pour le reciter, lui, il pensait qu'il y avait un pôle universel. Bon, ça le regarde, moi, je ne vais pas aller jusque-là. Mais...
Ah, c'est joli, ça.
Voilà, pôle universel. Mais l'universalité, c'est ce qui... Alors, je ne sais pas, moi, c'est ce qui permet une plus grande liberté, parce que c'est l'accueil d'une autre culture. Et aujourd'hui, malgré l'acculturation du monde par l'empire économique et libéral, aujourd'hui, on a quand même accès à tout ça et la liberté de circulation. En Europe, par exemple, on peut circuler librement. Ça, c'est quand même pas mal. Ça paraît libéral en premier point, mais en même temps, c'est une grande liberté. Quand on va en Italie en voiture, on traverse.
Ouais, mais en fait, excuse-moi, je vais te couper, mais je pense à...
Je sais pas si j'ai le droit de dire ça sur Radio Paul Bell.
Titouan Lamazou, que je connais très peu, mais je me rappelle, il a dit une chose sur la liberté qui avait énormément régressé justement par rapport à sa liberté de circuler.
Bon, le problème c'est que le monde devient uniforme, je crois. C'est ça le problème.
Et puis dans tous les sens du terme.
Il y a tout le monde s'habille en jean. Moi-même aujourd'hui.
Bourgeois. Moi je suis pas une bourgeoise.
Ouais, c'est ça.
Bon, on va faire une première interruption.
Oui.
On va écouter un morceau que tu as choisi.
Oui, c'est un morceau de Charlie Parker que j'aime beaucoup, qui s'appelle In the Still of the Night, avec le Dave Lambert Quartet. Donc c'est du chant, et puis le saxophone absolument libre, très très libre de Charlie Parker.
C'est parti!
In the spirit.